Notre invité ce matin, Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Député Renaissance des Hautes-Alpes, l'énergie actuellement c'est une source d'inquiétude un petit peu partout sur les territoires et notamment dans les stations de ski. Alors les stations qui vont ouvrir pour certaines dès ce week-end. Pourquoi c'est une inquiétude? Alors je vais préciser un petit peu. Dès le janvier prochain, le gouvernement va mettre en place ce qu'on appelle l'amortisseur électricité, 3 milliards d'euros qui vont bénéficier à des entreprises et des collectivités qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire à condition qu'elle n'ait pas d'activité concurrentielle. Et c'est cette condition qui bloque, parce que les régies de remontée mécanique et les régies thermales sont de ce fait exclues. Vous vous en êtes d'ailleurs inquiété, hein, puisque vous l'avez souligné au gouvernement, les stations les plus fragiles, celles qui n'ont pas d'opérateur privé pour leur DSP, seraient donc exclues de cet amortisseur électricité.
Oui, écoutez, c'est effectivement une inquiétude majeure parce que l'amortisseur électricité tel qu'il a été prévu ira très bien à des stations qui sont gérées par la compagnie des Alpes, pour citer cette entreprise, ou par d'autres. Elle ira très bien aussi à des stations qui ont choisi des modes de gestion privés, c'est-à-dire qui ont des sociétés d'économie mixte, j'allais dire assez classiques. En revanche, effectivement, tout ce qui relève des collectivités locales était exclu dans le décret. On a donc l'ensemble des parlementaires de montagne, députés et sénateurs de la majorité, alerté tous les ministres de Bercy, plus la ministre de la cohésion des territoires sur ce sujet, en leur disant que, parce que je crois qu'ils n'avaient pas très bien compris, qu'on était face effectivement à ce qui est le plus fragile en termes de montée mécanique. Donc je peux vous annoncer, la ministre l'a annoncé hier déjà, enfin du moins elle a esquissé dans une réponse au Sénat, mais aujourd'hui, pour avoir eu une réunion à 8h du matin avec le cabinet de Olivia Grégoire, qui est en charge des PME-PMI, la règle va changer pour être favorable, je dirais, aux collectivités territoriales, puisque tout ce qui relève des établissements publics, de l'État ou des collectivités ou des régies, dès lors que ce sont des régies qui ont une autonomie juridique, va être pris en charge au même titre que les entreprises privées, dès lors que cette régie a moins de 250 salariés. C'est-à-dire que, clairement, on cadre les choses sur les PME et les PMI, tel que le prévoit d'ailleurs le décret pour les entreprises privées. Donc, c'est pour nous, c'est extrêmement important, parce que il fallait vraiment que ces stations puissent s'en sortir. Il y a une inquiétude qui demeure sur les régies, vous le savez, qui n'ont pas d'autonomie juridique. Il y en a encore quelques-unes dans le département des Hautes-Alpes. On s'est assuré ce matin que la prise en charge de ces régies devrait ne pas poser de problème dans le cadre de l'aide aux collectivités, de manière, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une activité commerciale, puisque c'est la commune qui gère directement ce contrat. Et on va s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour ces quelques cas de régies sans autonomie juridique dans les jours qui viennent. Mais la question est désormais réglée. Donc les petites stations qui sont notamment des stations Champs-Souris, des stations du Kera, mais également quelques stations plus individuelles sous la forme de CIVU peuvent disposer de cet amortisseur électricité qui leur sera tout à fait indispensable pour pouvoir, j'allais dire, passer ce très mauvais cap de l'augmentation des contrats.
Et concrètement, comment ça va fonctionner? L'État va prendre en charge un écart entre le prix de l'énergie du contrat?
L'État va prendre en charge effectivement un gap à ce niveau-là. Grosso modo, suivant les stations et suivant les efforts qui ont été faits aussi en termes d'économie d'énergie, parce que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose qui va normalement être aux alentours de 25 à 30% de la facture. Je crois que c'est un dispositif qui là encore n'existe dans aucun autre pays d'Europe, mais qui va permettre, comme le dispositif qu'on a mis en place pour les stations, vous le savez, pour le Covid, non pas de combler 100% du problème, mais de faire en sorte que les stations puissent passer le cap, moyennant des ajustements et des ajustements quelquefois qui sont déjà faits, c'est-à-dire que beaucoup de stations ont fait des efforts considérables en termes justement de gestion de leur électricité, de façon à ne plus dépenser de manière, j'allais dire, sans compter un bien qui devient un bien rare en cette période de crise.
Alors, ces délestages d'électricité, justement, ça inquiète énormément. Ça inquiète la population et ça inquiète aussi les entreprises, parce que même si elles sont temporaires, on parle de 2 heures sur certains secteurs bien localisés, certaines entreprises seraient amenées à mettre tout simplement leur personnel en chômage partiel.
Oui, alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je crois que si on n'avait pas fait ce système, qui est un système effectivement d'alerte, on nous l'aurait sans doute reproché. Vous savez, c'est toujours comme ça. Bon, dans la mesure où on met en place un système d'alerte, des gens prennent peur en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui risque de nous arriver sur l'orable ?» Bon, donc ce système d'alerte, c'est un système d'alerte qui a une vertu, c'est-à-dire qu'il prévient 3 jours à l'avance qu'on va arriver dans une zone de turbulence assez importante, parce qu'il y a plusieurs jours de grand froid consécutif, par exemple, et une consommation qui augmente de manière inconsidérée et qui risque de provoquer un lockout. Mais c'est vraiment, ce sont des cas qui sont des cas exceptionnels. Vous savez, pour bien connaître un certain nombre de pays, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, on prend pas autant de précautions. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un disjoncteur complet qui se fait sur une région, il peut y avoir des millions d'usagers privés d'électricité pendant plusieurs jours sans que ça gêne qui que ce soit. Bon, nous, on est dans un pays où on protège les gens. Donc, 3 jours avant, il y aura une alerte. Cette alerte sera donnée à tous les citoyens qui disposent d'un système qui est un système informatique, ou alors par voie de presse, par voie de radio, évidemment, vous serez plus que sollicité. Et à partir de cette alerte, il y a effectivement 3 jours pour se préparer une éventuelle coupure, qui est une coupure limitée. Grosso modo, c'est 2000 habitants pendant 2 heures. Alors, il y a encore des détails à régler. Je comprends l'association des maires de France et leur déclinaison dans les Hautes-Alpes en particulier. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent s'organiser. Le délai a été fixé à la veille à 17h pour avertir de la coupure et des 2 heures de coupure.
Les collectivités demandent à ce que ce soit avancé à midi.
C'est un délai qu'il faudra effectivement sans doute réviser de façon à dire que les choses sont imminentes. Il vaut mieux prévenir parce qu'il y a des services de cantine dans les écoles, parce que les remontées mécaniques, pour les citer, là encore, ça se prépare de manière différente. On ne peut pas avoir des gens qui arrivent devant des remontées mécaniques qui sont fermées de 8 à 10. Donc il faut décaler les horaires. Mais c'est vraiment une procédure, j'allais dire, de SAMU, si vraiment il y a un risque de faire disjoncter le réseau électrique. Donc elle ne sera mise en œuvre, RTE, le réseau de transport d'électricité, dit que de manière tout à fait exceptionnelle, il faudrait qu'il y ait des conjonctures vraiment de grand froid et de consommation excessive pour que tout cela puisse se mettre en œuvre. Donc n'affolons pas les gens, disons simplement que comme on est un pays responsable, eh bien, il y a une procédure qui est prévue, une procédure qui reposera là encore sur un couple maire-préfet comme pour la période de la Covid, c'est-à-dire que ce sont les maires qui seront effectivement en première ligne avec les préfets et les sous-préfets territoriaux, de façon à pouvoir gérer au mieux d'éventuelles crises qui peuvent intervenir parce que le relais téléphonique, par exemple, mobile, va disjoncter pendant 2 heures et donc il faut prévoir un certain nombre de choses, parce qu'il y a ces problèmes de cantine pour les gosses, parce qu'il y a des problèmes de relevage d'eau, de traitement de l'eau et d'assainissement de l'eau qui peuvent s'arrêter pendant 2 heures et ça peut être embêtant. Donc tout cela va être réglé au niveau local et pas au niveau national. Mais pour ma part, je suis quand même confiant. C'est pas parce qu'on prévoit un dispositif d'urgence s'il y a un pépin que ce dispositif est mis en œuvre. Vous savez, c'est un petit peu, moi j'ai été quand même maire pendant longtemps, il arrivait que brutalement il y a un arrêté d'interdiction de la part des préfets des transports scolaires qui soit pris le soir vers 19h et pour le lendemain matin. Donc les maires, fallait trouver des solutions d'organisation j'allais dire en dernière minute, et on n'arrivait pas à prévenir toutes les familles non plus parce qu'on n'avait pas le téléphone des familles pour les prévenir. Donc là, c'est simplement une procédure qui existera, qui est entre guillemets normalisée, mais ne faisons pas peur avec cela, c'est simplement en cas d'urgence que toutes ces dispositions seront mises en œuvre, et l'urgence risque, je dirais, de ne pas excéder même ce qui relève, j'allais dire, des coupures classiques que l'on a lorsqu'il y a des travaux sur des réseaux.
L'actualité, c'est une actualité aussi ferroviaire avec la réactivation de la ligne, ces travaux qui ont été menés entre Gap et Grenoble. Réactivation de la ligne, ce sera ce week-end. Il y a toujours une inquiétude quand même qui perdure. Selon le collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes, il faut mener d'autres travaux de régénération sur cette ligne avant 2024 sur certains secteurs. Alors, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle, a confirmé son soutien financier. Et ce n'était pas le cas de la région voisine, Auvergne-Rhône-Alpes.
Ben écoutez, effectivement, moi j'ai vu avec une certaine surprise qu'une fois encore, le président Wauquiez tardait à répondre sur ces questions ferroviaires. Je crois que la meilleure réponse qu'on peut lui opposer, c'est qu'il y a du monde dans les trains. Et s'il y a du monde dans les trains, il sera bien obligé de, excusez-moi l'expression, mais de passer comme les autres à la casserole, d'autant que sa région est concernée au premier chef et que l'endroit où il y a le plus de voyageurs, c'est quand même la zone qu'on va qualifier de périurbaine de Grenoble, c'est-à-dire toute la zone qui est sur la descente du col de la Croix-Haute en direction de Grenoble. Mmh. Bon, au-delà, moi je vais vous dire franchement, et je le dirai, puisque dimanche je serai avec d'ailleurs Pascal Boyer. Je pense avec une représentante de la région, je serai à la gare de Gap pour fêter entre guillemets ce renouveau ferroviaire. J'espère simplement qu'il n'y aura pas de grève de la SNCF parce que c'est bien que les trains puissent circuler aussi. Mais quand on a fait 40 millions d'euros de travaux, ce que je reproche aujourd'hui à la SNCF, c'est de ne pas voir l'amélioration sur les temps de parcours. On a des temps de parcours qui frôlent les 3 heures entre Gap et Grenoble. Et ça, c'est là j'allais dire, je comprends le courroux de la région Rhône-Alpes sur ce sujet-là. C'est pas possible de faire 40 millions de travaux, de supprimer des ralentissements permanents et d'avoir un temps de parcours qui est le même.
À un moment, on parlait de ce projet de doubler la ligne, ce qui était rendu quand même assez impossible. En tout cas, c'est ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur semblait dire.
Non, mais c'est complètement impossible.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce temps de trajet?
Ben, le temps de trajet, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas remis les vitesses nominales au bon niveau. En plus, il y a 2-3 points de croisement qu'il faut gérer. Alors, vous savez, on est dans un pays très curieux. Et la SNCF est quand même une boîte très, très, très curieuse. Partout ailleurs en Europe, on regarde quelles sont les fonctionnalités de la ligne et au besoin, au lieu de faire des travaux de voie, on fait des travaux pour automatiser un point de croisement. Un point de croisement, d'ailleurs, qui n'est pas forcément dans une gare. C'est-à-dire un endroit où, tout simplement, les trains se croisent de manière plus efficace pour permettre qu'il y ait une desserte cadencée avec, par exemple, 2 heures de temps de parcours entre chaque train. Bon, la SNCF, ou du moins les réseaux SNCF, ne pratiquent toujours pas cette méthode qui est pourtant assez évidente, c'est-à-dire de faire des travaux en fonction du type de trafic qu'on veut sur les lignes. Donc je continue à mener le même combat qui consiste à faire en sorte que la SNCF comprenne que c'est les usagers qui comptent et pas forcément son confort de travaux au travers de SNCF Travaux. On est face à un dilemme absolument incroyable. Quelquefois des travaux peu onéreux de croisement de trains, c'est-à-dire de mise en place d'un évitement, peuvent générer un meilleur trafic que des portions de voie entières à refaire. Et puis en plus, il y a une inertie dans cette boîte qui est absolument incroyable en termes d'exploitation. Donc voilà, je savais que dans le collectif de l'Étoile de Veynes, il y avait quelques personnes qui auraient voulu une gestion locale par des cheminots locaux d'ailleurs de la ligne. J'en arrive à me demander si on ne ferait pas mieux d'avoir un opérateur alternatif à la SNCF de temps en temps. Mais ça,
donc cette fameuse ouverture à la concurrence sur certaines portions.
Ben oui, c'est parce que c'est assez incroyable la façon dont cette boîte gère les choses. Il y a 2 jours encore, le train de nuit a été supprimé parce qu'il y avait un problème de grain, mais il a été supprimé alors que le train était déjà à quai, quoi, à Paris. Il y a quand même des problèmes d'anticipation et de gestion dans cette entreprise qui défient l'entendement. Et je pense que la concurrence qui a fait que le réseau italien est devenu performant en quelques années et plus performant que le réseau français, chez nous serait de bon augure. Et j'en appelle les autorités de régulation des transports à faire le job de façon à ce que la SNCF puisse être concurrencée, la région PACA va le faire, sur un certain nombre de lignes pour qu'elles comprennent que c'est pas simplement un marché captif, les régions, pour qu'elles payent et qu'en regard, il n'y ait pas forcément un service rendu de grande qualité. Donc, ce sera une inauguration d'une certaine joie parce que nous avons tous participé à faire en sorte que ces 40 millions d'euros puissent converger sur la ligne, mais également ces interrogations sur l'avenir que vous soulignez, c'est-à-dire quid de la suite des travaux. Et la deuxième interrogation, quid de l'exploitation par la SNCF d'une ligne où il n'arrive pas à avoir les performances nominales d'un réseau ferroviaire.
Merci beaucoup Joël Giraud d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Député Renaissance des Hautes-Alpes. Merci.